recevons donc ce soir Seyfettin Gürsel. Je vais vous dire quelques mots sur sa biographie. Il a commencé par faire des études en France, d'abord des études d'économie et notamment Sciences Po à Grenoble, qui sont terminées en 1973. Puis il a soutenu un doctorat d'État en économie à l'université de Nanterre-Paris 10 de 1980 à 1983. Ensuite, de 83 à 86, il a été rédacteur en chef de l'Encyclopédie de la Turquie, l'encyclopédie qui portait sur les années 1923 à 1980. Puis il a enseigné dans les universités de Galatasaray. Il est aujourd'hui directeur du Centre de recherche économique et sociale de l'université Bahçeşehir. Donc c'est un spécialiste en macroéconomie, économie du travail et histoire économique qui va donc nous parler de la Turquie, qui va s'interroger sur la Turquie, membre de l'Union européenne, un fardeau ou un atout. Je signale une de ses publications, « L'Empire ottoman face au capitalisme », qui a été publiée chez l'Harmattan en 1987. Je lui laisse la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi vous pourrez lui poser des questions.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne suis pas surpris par cette salle pleine parce que mes collègues qui m'ont précédé dans cette salle m'avaient dit qu'il y avait un grand intérêt pour ces conférences, pour le débat sur la Turquie. Mais quand même, un dimanche soir, d'être là si nombreux mérite un louange. Peut-être vous n'avez pas tort d'être intéressé à l'avenir de la Turquie parce que cet avenir va bien sûr importer pour les Turcs, pour la Turquie, mais cet avenir aussi importe et va importer pour l'Europe, donc pour la France. Alors je vais essayer, bon, je suis tout à fait au courant bien sûr du débat autour de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, un débat qui se déroule en France, et j'ai donc pris comme départ la question de départ, ce fardeau ou cet atout. Je pense que ça résume d'une façon un peu schématique peut-être les pour et les contre, les positions des pour et des contre. Le débat sur l'adhésion de la Turquie en France, d'abord je dois vous signaler, peut-être vous ne vous en apercevez pas suffisamment, mais c'est un débat assez passionnel, subjectif et même parfois je dirais politicien, plutôt que rationnel ou objectif. Et ce débat est assez, je dirais, unique à la France, parce que il y a bien sûr des pays où la population majoritairement est contre l'adhésion pour diverses raisons. Je peux citer l'Autriche qui se tient dans un cas extrême, mais jamais autant en Autriche il y a eu un tel débat passionnel et les gouvernements autrichiens ont pris la question de l'adhésion de la Turquie comme un élément de politique intérieure. C'est un peu assez particulier à la France. Je dirais même récemment, vous savez, il y a eu des élections en Allemagne. Là aussi, il y a un débat, bien sûr. Il y a des partis qui sont pour, des partis qui sont contre. Mais le débat sur la Turquie n'avait jamais autant passionné les Allemands qu'il passionne les Français. Je pense que pour un peu dépassionner et pour introduire plus d'objectivité dans ce débat, il faut partir des réalités à la fois juridiques, bien sûr, parce qu'il y a des engagements, il y a des accords internationaux qui sont signés entre la Turquie et l'Union européenne. Mais ceci est peut-être moins important, finalement. On peut changer les accords. Mais surtout, il faut, je pense, partir des réalités économiques et géostratégiques pour répondre à la question que j'ai posée au départ. Quelles sont les alternatives, si vous voulez, partons à partir de cette question. Bon, en fait, il y en a trois sur le papier. Soit la Turquie adhère à l'Union européenne, soit comme le souhaite un certain nombre de politiciens français, y compris le président Sarkozy, le partenariat privilégié, soit l'exclusion, pour dire d'une façon moins brutale, si vous voulez, l'indépendance pour la Turquie, mais ce sera reçu comme exclusion, quand même, par les Turcs. Est-ce que vraiment il y a trois alternatives? Je ne le pense pas. En fait, il n'y en a que deux. C'est l'adhésion ou l'exclusion. Car le partenariat privilégié, c'est une pseudo-alternative. Et c'est ce que je vais d'abord essayer d'argumenter pour, en fait, nous concentrer par la suite sur ces deux vraies alternatives, c'est-à-dire soit l'adhésion, soit l'exclusion. En effet, le partenariat privilégié, c'est un grand mot et c'est un mot allégeant parce qu'on pense que quelqu'un qui ne sera pas tout à fait au courant des nuances penserait qu'il y aura beaucoup de privilèges pour la Turquie dans cette histoire. En fait, au contraire, il n'y a que des difficultés et des contradictions qui sont, comme je vais essayer de le prouver, insurmontables. Bon, c'est quoi en fait le partenariat privilégié? C'est un projet qui vise à intégrer la Turquie dans l'Union européenne économiquement et bien sûr politiquement, stratégiquement, tout en l'excluant des institutions. En fait, exclure des institutions, je veux dire du Conseil, du Parlement, de la Commission, les trois institutions principales de l'Union européenne, cela veut dire aussi intégrer la Turquie sans lui donner un droit de regard, un droit de vote dans le processus de décision. Donc c'est exclure la Turquie du processus de décision. Mais évidemment, je n'ai pas peut-être besoin de développer mes arguments longuement. Il est évident que ceci est intenable et inacceptable pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons d'intérêt, c'est-à-dire la Turquie n'a absolument aucun intérêt à s'intégrer dans l'Union européenne sans être partie prenante du processus de décision. Alors, ce partenariat privilégié, à mon avis, pose trois problèmes majeurs. Et le premier problème, l'intégration économique est insoutenable sans l'adhésion. Je vais vous expliquer pourquoi il en est ainsi. Vous savez que la Turquie est dans l'union douanière en ce qui concerne les produits industriels depuis 1996. D'ailleurs, c'est le seul cas de pays qui a été dans l'union douanière sans avoir adhéré à l'Union européenne. Évidemment, il est question dans le partenariat privilégié ce qu'on appelle espace économique plus, c'est-à-dire d'élargir cette union douanière aux produits agricoles et aux services. Très bien, mais en même temps, l'Union européenne est en train de signer des accords de traité de commerce libre avec les pays tiers, avec un grand nombre de pays jusqu'à maintenant. Il a signé ce genre de traité, et ceci veut dire qu'en fait, par exemple, avec le Mexique, avec les pays de Nord d'Afrique, etc., le Maroc, la Tunisie, mais avec beaucoup d'autres aussi, ceci veut dire qu'en fait, ces pays peuvent exporter dans le marché européen et ces produits sans aucun empêchement, sans aucune contrainte, peuvent aussi, bien sûr, arriver sur le marché turc puisqu'il y a une intégration économique du point de vue des produits industriels entre l'Union européenne et la Turquie. Or, la Turquie, si jamais ces pays refusent de signer les mêmes traités de commerce libre avec la Turquie, ne peuvent pas exporter ces produits dans ces marchés. Jusqu'à maintenant, cela n'a pas posé beaucoup de problèmes parce que le Mexique était loin. Les pays d'Afrique du Nord, ce sont des pays amis. En plus, ce sont des petits pays. Leur concurrence ne posait pas grand problème pour la Turquie, etc. Mais maintenant, il y a sur le pipeline la Corée du Sud. L'Union européenne est sur le point de signer un traité de commerce libre avec la Corée du Sud et ça va faire mal pour la Turquie. La Turquie a déjà déclaré que c'est inacceptable. Si jamais la Corée du Sud ne signe pas le même traité avec la Turquie, parce que si jamais cela était le cas, c'est-à-dire l'Union européenne accepter les produits industriels sud-coréens dans le marché européen, ces produits vont automatiquement entrer dans le marché turc sans droit de douane, mais les firmes turques ne peuvent pas faire la même chose pour le marché sud-coréen. C'est une situation intenable et vouloir élargir en fait dans un cadre de partenariat privilégié ce genre de situation asymétrique et déséquilibrée aux produits agricoles, aux services, est tout simplement intenable pour la Turquie. Donc il va falloir qu'on trouve une solution à ça, soit à ce moment-là la Turquie, bon, que je vais expliquer tout à l'heure, il n'y aura pas d'adhésion, et alors on transforme l'union douanière en traité de commerce libre, soit en fait on accepte que la Turquie va adhérer, peut-être pas bientôt, mais dans un avenir plus ou moins projetable, envisageable. Et à ce moment-là, évidemment, il sera question pour l'Union européenne aussi d'imposer à ces pays tiers, lorsqu'ils signent des traités de commerce libre avec ces pays, de signer les mêmes traités avec la Turquie jusqu'à ce que l'adhésion soit accomplie. Deuxième difficulté, ou des difficultés d'ordre plutôt politique et stratégique, l'Union européenne veut intégrer la Turquie dans le système de défense et de sécurité européenne. Ceci est très important pour la défense européenne, c'est-à-dire en fait l'Europe veut l'armée turque à côté d'elle sans pour autant permettre à la Turquie d'adhérer. Quand je dis l'Europe, évidemment, n'exagérons pas, parce qu'il y a une majorité de pays qui sont pour l'adhésion, mais comme je parle ici en France, je sais que à la fois le gouvernement et la majorité de l'opinion publique est contre, donc il faut pas croire non plus que en Europe c'est partout le cas. Alors qu'est-ce que ça va poser comme problème? C'est que évidemment la Turquie aussi est pour intégrer la défense, peut-être on va donner à la Turquie un droit de décision, un droit de veto dans ce système, parce qu'il est impossible de vouloir la Turquie dans le système de défense européenne sans lui accorder les mêmes droits de décision que les autres. Ceci sera fait probablement, mais comme je vais essayer de démontrer dans la suite, vous allez voir, ça va poser plus de problèmes que d'en résoudre. Alors, donc, pourquoi on peut, je pense, se poser cette question? Pourquoi la Turquie devrait accepter une relation asymétrique et soumise si l'indépendance est en fait est plus bénéfique? En effet, je ne vais pas répéter. Donc, je vous rappelle tout simplement, sans l'adhésion, l'union douanière est insoutenable. Il ne sera pas question d'élargir aux produits agricoles et aux services, surtout les marchés publics. Pourquoi la Turquie devrait ouvrir ses marchés publics aux firmes européennes au même titre que les firmes turques si elle ne fait pas partie de l'Union européenne? C'est pas dans l'intérêt de la Turquie. L'union douanière du point de vue des règles environnementales, vous connaissez, c'est un grand débat aussi aujourd'hui en Europe. La Turquie, évidemment, est assez en retard en ce qui concerne les règles de protection de l'environnement, etc. On veut de la Turquie d'adopter ces standards européens puisqu'il est intégré économiquement dans l'Union européenne. Donc, pour des raisons de concurrence loyale, etc., ou pour éviter la concurrence déloyale, évidemment, il faut que la Turquie accepte ces règles, mais ces règles vont coûter très cher à la Turquie. Ce coût peut être supporté, bien sûr, comme ça. C'est en train d'être supporté par les pays de l'Est qui viennent d'adhérer. Ça peut être supporté par la Turquie à condition de bénéficier, bien sûr, du membership de l'adhésion à l'Union européenne. C'est-à-dire, pourquoi, ou je peux poser la question différemment, pourquoi la Turquie devrait payer un coût assez élevé aux règles environnementales, aux standards européens de la protection de l'environnement, sans bénéficier des bénéfices de l'adhésion. Donc, là aussi, je le souligne encore une fois de plus, l'intégration de la Turquie dans la défense européenne exige en fait sa pleine participation dans les processus de décision. Probablement, ceci sera fait. Mais le problème qui va se poser à ce niveau, c'est que une Turquie qui est intégrée dans le système de défense et de sécurité européenne sans être membre de l'Union européenne, c'est-à-dire un pays qui est exclu du processus de décision et des institutions européennes, en fait, ne va pas probablement adopter dans tous les conflits ou dans tous les sujets, dans tous les domaines, la politique extérieure européenne. Et d'ailleurs, c'est un peu de plus en plus le cas parce que la Turquie est de plus en plus commence à se focaliser en ce qui concerne ses intérêts géostratégiques avec la Russie, avec le Moyen-Orient, etc. Je vais en parler peut-être à la fin. Donc là aussi, à mon avis, ce sera une source de difficultés et de blocage même, parce que donner le droit de veto à la Turquie pour pouvoir l'intégrer dans le système de défense européen, tout en même temps l'excluant des institutions européennes, aucune garantie que la Turquie va accepter toute la politique extérieure européenne. Et puis finalement, pourquoi la Turquie devrait accepter le partenariat privilégié? En fait, aucune chance. Aucune chance. Nous sommes en train de finir une recherche sur ce partenariat privilégié qui est financé par le CNRS turc avec une collègue des relations internationales. Nous avons mené des interviews en France, en Allemagne, en Belgique, à Londres, etc. avec les défenseurs, les académiciens, bien sûr les spécialistes, les experts qui défendent le partenariat privilégié pour savoir comment on peut donner un contenu en fait à cette proposition qui sera acceptable pour la Turquie. Plutôt que l'indépendance, la Turquie va dire bon, on m'exclut de l'Union européenne, mais au moins on me donne un partenariat privilégié, c'est finalement préférable. Évidemment, c'est pas la meilleure solution, mais quand même c'est le second best, comme on dit, c'est-à-dire c'est la deuxième meilleure solution pour la Turquie plutôt que rester indépendant. Donc pour essayer de répondre à cette question, je viens de le rappeler. Donc ces interviews en fait nous ont montré que ils ont beaucoup de difficultés, les défenseurs du partenariat privilégié, à remplir le contenu de ce soi-disant privilège. Et en Turquie, nous avons aussi mené, bien sûr, les mêmes interviews en Turquie avec les différentes institutions, les partis politiques, avec les généraux en retraite, avec les syndicats, etc., etc. Il y a une belle unanimité parce qu'il y a des gens aussi qui sont contre l'Union européenne, enfin, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. En Turquie aussi, c'est une minorité de l'ordre de 30-35% des Turcs sont contre pour différentes raisons. Alors, qu'ils soient contre ou qu'ils soient pour, ils sont tous contre le partenariat privilégié. Ils n'ont aucune chance. Et donc, finalement, pour résumer, la Turquie, pour des raisons historiques, politiques, psychologiques, tout ce que vous voulez, n'acceptera jamais une relation inégale avec l'Union européenne. Donc, il reste à discuter les deux vraies alternatives. Alors, parlons d'abord des enjeux, c'est-à-dire l'adhésion, l'exclusion, quels sont les enjeux qu'ils impliquent. Il y en aura cinq, je crois, si je me souviens bien. J'ai noté cinq enjeux. La Turquie est un pays en transition démographique relativement pauvre. D'abord, partons de cette constatation. Excusez-moi. Euh, Je vais vous montrer. Voilà, c'est ce que je cherchais. La Turquie, la transition démographique de la Turquie. Vous connaissez ce que ça veut dire ce mot, c'est-à-dire il y a toujours une croissance positive, mais de moins en moins forte, parce que le taux de natalité baisse très très rapidement, le taux de mortalité baisse aussi, mais moins rapidement. Pour le moment, il y a une croissance positive, mais la population de la Turquie va se stabiliser dans les années 2040 aux alentours de 88-90 millions. Ce sont les dernières projections. Aujourd'hui, la Turquie a une population de 72 millions. Alors, je sais qu'en France, dans les débats, dans les polémiques, pour un peu effrayer peut-être les Français, d'ailleurs je vois pas la raison, on parle d'une Turquie de 100 millions. N'ayez pas crainte, la Turquie n'aura jamais 100 millions d'habitants. Il est vrai que la Turquie a une population jeune, plus jeune que l'Union européenne en tout cas, mais le vieillissement est inévitable à terme parce que la Turquie, comme je vous ai dit, est à peu près là, quelque part ici, je vais essayer de montrer. Donc on termine la transition, voilà, la Turquie est quelque part ici, donc vous savez, nous nous approchons de la fin de la transition démographique et nous allons commencer à avoir des problèmes de vieillissement à partir des années 2040, donc les mêmes problèmes qui sont actuellement, que l'Europe fait face, certains pays particulièrement, voient aussi être vécu par la Turquie dans une proche avenir. Bon, c'est pour vous donner une idée de cette structure d'âge, donc de ce vieillissement, de ce problème de vieillissement. Vous le connaissez. Je ne vais pas répéter les chiffres. Je vous laisse regarder. Comme vous savez, donc 2040, 15% de vieux à partir de plus de 65 ans, alors qu'aujourd'hui il n'y en a que 7%. Alors, la deuxième question, donc le deuxième enjeu, la question de la pauvreté. En 2008, le revenu par tête en parité de pouvoir d'achat était égal à 43 si on prend l'Union 27 à 100. Donc, par rapport à la moyenne européenne, le revenu par tête de la Turquie se situait à 43. Donc, la Turquie, par rapport à l'Union européenne, est un pays relativement pauvre, c'est exact. Mais je vous signale que ce niveau est proche de la Pologne, légèrement supérieur à celui de la Roumanie et franchement supérieur à celui de la Bulgarie. Et comme vous savez, ces pays viennent d'être membres récemment. Mais vous allez me dire, ils sont pas aussi grands que la Turquie. C'est vrai, mais la Pologne plus la Roumanie plus la Bulgarie ensemble, c'est aussi grand que la Turquie. Mais ceci, évidemment, je sais qu'il y a eu beaucoup de débats aussi pour l'adhésion de ces pays. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, le troisième problème, le chômage, la question du chômage. Le chômage en Turquie est assez élevé. Avant la crise, le taux de chômage était 10%, avec 2 300 000 chômeurs. Avec la crise, ce nombre maintenant atteint à peu près 3 et demi. Le taux de chômage dépasse plus de 14%, donc c'est un vrai problème. La question du chômage. Pour résumer, ces trois grands problèmes, disons, que pose l'adhésion de la Turquie comme défi à l'Union européenne, démographie, pauvreté, chômage, est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Apparemment, oui. Mais je vous invite de regarder un peu plus près à ces trois grandes questions. Alors, j'ai un peu mis un titre, une question provocatrice. Vous savez, vous connaissez tous ce plombier polonais, bien sûr. Et donc, si jamais l'adhésion de la Turquie dans un proche avenir devient une éventualité sérieuse, on va probablement parler du plombier turc. Ma réponse est non. Pour deux raisons. D'abord, les flux migratoires en cas d'adhésion seront assez faibles et même peut-être bénéfiques. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et la deuxième raison de la réponse non, c'est que l'adhésion en fait accroît la croissance économique du membre et renverse à terme les flux migratoires. Regardons les exemples. Les études économétriques et les scénarios de simulation en fait montrent deux scénarios extrêmes. Un scénario fort, ça veut dire adhésion rapide, c'est-à-dire dans le tout proche avenir, avec une croissance faible. À ce moment-là, nous estimons qu'il y aura 2,7 millions d'émigrants turcs de 2010 à 2025. Évidemment, c'est pas peu. En gros, donc en 15 ans, c'est à peu près 150 000 par an. C'est, comme je dis une fois de plus, c'est pas peu, mais c'est un cas, c'est un scénario extrême, parce que l'adhésion rapide avec croissance faible, en fait, c'est pas une éventualité plausible. Parce que quand il y a adhésion, comme je vais vous montrer tout à l'heure, il y a croissance forte. Donc l'autre cas extrême, le scénario faible, adhésion retardée avec croissance forte, qui est possible avec la perspective d'adhésion de la Turquie, de l'économie turque, donc intégration de l'économie turque dans l'Union européenne, à ce moment-là, on estime à 700 000 pour 15 ans le chiffre d'émigrés, donc ça fait même pas 30-40 000 par an, c'est absolument marginal et ce n'est pas nécessaire d'en parler. Mais il y a un autre argument. Mais avant de un argument, c'est-à-dire les flux migratoires vont se renverser. Mais avant ça, je voudrais faire deux remarques, parce que malheureusement, les Français, l'opinion publique française connaît mal, assez mal, les réalités turques. Donc, je vais en rappeler juste deux. D'abord, le SMIC turc est supérieur à certains membres de l'Union européenne. C'est le cas pour la Roumanie, c'est le cas pour la Bulgarie, c'est le cas pour les pays baltiques, etc. Donc, la Turquie n'est pas aussi pauvre qu'on le croit. Deuxième remarque, la Turquie est en fait un pays d'émigration depuis des années 1990. Donc, tous les voisins, lorsque les systèmes socialistes se sont écroulés, les voisins de la Turquie ont massivement émigré dans le marché turc en clandestin. On a eu des Roumains, on a eu des Bulgares, maintenant ils sont chez vous. Il y a eu des Ukrainiens, ils sont toujours chez nous. Il y a eu des Arméniens, ils sont toujours chez nous. Il y a eu des Azerbaïdjanais, ils sont moins parce qu'il y a la rente pétrolière. Il y a eu les Géorgiens, ils sont toujours chez nous, etc. Alors, deuxième argument, à mon avis, l'immigration peut être bénéfique s'il est contrôlé et s'il est modéré. En France et en Allemagne, on a beaucoup parlé du plombier turc, mais certains membres de l'Union européenne n'en ont pas parlé du tout. Ils ont essayé de profiter du plombier polonais. Ça a été le cas du Royaume-Uni, ça a été le cas de la Suède, ça a été le cas de l'Irlande. Ces pays ont reçu une immigration polonaise et les estimations économiques montrent que 17% de contribution à la croissance économique dans ces pays. Deuxième exemple très intéressant, l'Espagne. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le pays actuellement le plus ouvert à l'immigration dans l'Union européenne. Il y a eu une croissance très rapide des émigrés dans le marché du travail espagnol. En 2000, il y avait 2,3% d'étrangers en Espagne par rapport à sa population. Maintenant, il y a plus de 11%. Regardez, s'il vous plaît, ce graphique que j'ai pris de l'OCDE de 2000-2005. Évidemment, ce sont des chiffres absolus. Donc, l'Allemagne possède le plus d'émigrés. La France aussi, juste second, avant l'Angleterre, ou à peu près ex aequo avec l'Angleterre. Mais vous pouvez remarquer, l'émigration s'est arrêtée en France, continue en Allemagne, continue en Angleterre, mais il y a eu une véritable boom espagnol. Vous pouvez regarder en 2000, il est vraiment tout à fait marginal, l'émigration, et puis il y a eu une grande boom, Et vous savez que de 2000 à 2008, l'économie espagnole a fait une grande boom économique. Donc, en fait, avec l'adhésion, à moyen terme, les flux migratoires peuvent se renverser. Ça a été d'ailleurs le cas avec les Grecs, avec les Portugais, avec les Espagnols, avec les Irlandais. Et ça va être le cas bientôt avec les Polonais, etc. Et très probablement, demain, ce sera le cas pour la Turquie, si jamais la Turquie devient membre de l'Union européenne. Pour des raisons d'ailleurs tout à fait évidentes, l'adhésion accroît la croissance économique du nouveau membre à travers la convergence macroéconomique. Les taux d'intérêt baissent, ça donne un coup de pouce à la croissance économique. Il y a eu des entrées de capitaux directs, des investissements directs étrangers, donc ça augmente le taux de croissance. Et d'ailleurs, je dois vous signaler que le levier des investissements directs étrangers fonctionne déjà pour la Turquie. Avant 2004, la moyenne des investissements directs étrangers était de 1 milliard et demi d'euros à peu près par an. Après 2004, la moyenne est maintenant à atteindre 12 milliards d'euros par an. Énorme explosion à partir de 2005. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2004? En décembre 2004, au sommet de Copenhague, la Turquie était considérée comme un pays qui doit maintenant entamer les négociations avec l'Union européenne, les négociations d'adhésion. Et la seule décision que la Turquie devient un pays négociant, l'adhésion a fait exploser les investissements directs étrangers. Vraiment, quelques banques très moyennes en Turquie ont été vendues à des prix exorbitants. Les Grecs, les Hollandais, les Belges se sont rués sur les banques turques avec des prix exorbitants. S'ils avaient attendu quelques années, ils les auraient eu beaucoup moins cher avec la crise actuelle. Mais enfin. Effectivement, là, juste l'exemple de l'Espagne. Comme vous pouvez voir, la convergence, la Turquie n'a pas réussi une convergence avec l'Union européenne dans les 40 dernières années, 50 dernières années, alors qu'avec l'adhésion, l'Espagne a réussi une convergence assez extraordinaire avec la moyenne européenne. Là aussi, j'ai pris une comparaison avec la Pologne. Le plombier polonais inquiétait les Français. Là, 2000, le taux de chômage polonais avait atteint 20%. Et puis, après l'adhésion, il y a eu une croissance forte en Pologne. Le chômage a baissé très fortement. Maintenant, on n'en parle plus du plombier polonais. Et je pense aussi que ce sera le cas pour la Turquie. Bon, la Turquie, est un corridor d'énergie pour l'Union européenne. Ça, probablement, vous suivez de près les développements dans ce domaine. Je vous apprendrai probablement rien quand je défends que le défi principal du XXIe siècle est l'accès aux sources d'énergie fossiles, parce que malheureusement, ces sources d'énergie vont continuer à être très importantes pour tout le monde. On n'arrive pas à s'en passer. Les projections montrent que dans les 30-40 ans à venir, de plus en plus seront rares, de plus en plus nous en aurons besoin, et de plus en plus l'accès à ces sources d'énergie sera un grand problème. Et vous savez que des réserves de pétrole et de gaz naturel considérables existent dans la mer Caspienne, dans l'Iran, dans le nord d'Irak. Et ces sources, l'accès de l'Union européenne à ces sources d'énergie passe essentiellement, je dirais pas uniquement, mais essentiellement par la Turquie. Bon, la carte, tout le monde le connaît. Je passe. Mais très récemment, juste, il manque quelque chose pour vous montrer combien les enjeux devient de plus en plus important. Il manque quelque chose ici, c'est le flux sud qui va venir de la Russie et qui va passer à l'Europe.
Il y a quelques semaines, Poutine est venu en Turquie. La Turquie et la Russie ont signé des accords très importants de la coopération dans l'espace, de la coopération nucléaire jusqu'au problème de transport de l'énergie. La Russie a accepté de donner du pétrole à ce oléoduc qui va descendre au sud. Et en contrepartie, la Turquie a permis à la Russie de faire passer par ses territoires, par ces eaux maritimes nationales, le transport sud du gaz russe vers l'Europe. Donc ce sont des grandes coopérations énergétiques qui sont en train d'être montées et j'ai pas besoin de continuer d'expliquer encore plus longtemps combien la Turquie va importer dans cette histoire. Alors, la question que je pose est une question très simple. Quelle Turquie peut contribuer d'une façon efficace à l'approvisionnement en énergie de l'Union européenne? Une Turquie membre de l'Union européenne ou une Turquie en dehors de l'Union européenne? Essayons de répondre à ces deux questions. Alors, quels sont les risques d'une Turquie exclue? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pourquoi la question que j'ai posée au départ est cruciale. Quelles sont les vraies alternatives? Si l'Europe, et particulièrement la France, la majorité, ou en tout cas le gouvernement, les autorités politiques, je sais qu'un grand nombre de Français, des millions de Français sont pour l'adhésion de la Turquie, mais si le gouvernement, les autorités politiques en France continuent à croire qu'il est possible d'avoir la Turquie avec l'Union européenne, accrocher la Turquie à travers un partenariat privilégié à l'Europe, donc éviter tous les problèmes que peut poser l'exclusion de la Turquie, sans en faire un membre, est une chimère. Franchement, c'est une chimère et il n'y aura jamais cette alternative. Donc, en fait, le cas d'exclure la Turquie présente des risques. Quels sont ces risques? J'ai dit tout à l'heure, en fait, l'union douanière est insupportable et la Turquie va probablement transformer l'union douanière en traité de libre-commerce avec l'Union européenne. Et ceci va ouvrir à la Turquie la voie de signer les mêmes traités de libre-commerce avec la Russie, avec l'Iran, avec l'Irak, parce que ces pays présentent des économies complémentaires avec la Turquie. Ce sont des grands pays de ressources naturelles. Ce sont des rentiers de ressources naturelles, alors que la Turquie est un producteur de produits industriels. Juste permettez-moi de vous donner l'exemple de la Russie. Ce sont les importations et les exportations turques vers la Russie. Vous pouvez constater à gauche, la Turquie en fait exporte des biens de consommation et d'investissement majoritairement à la Russie et pratiquement ne reçoit que de l'énergie, que du pétrole et du gaz naturel. C'est ce que nous appelons en économie, en littérature économique, le Dutch disease, le syndrome flamand, le syndrome hollandais, c'est-à-dire ces pays comme la Russie, l'Irak, l'Iran, etc., à cause des rentes pétrolières, et le prix du pétrole va de plus en plus augmenter relativement dans les années qui viennent, vont en fait jamais pouvoir s'industrialiser et seront obligés d'importer les produits, en majoritairement produits industriels, de l'extérieur. Et la Turquie est mieux placée que l'Europe dans, pour ses marchés à cause de la proximité, etc. Et d'ailleurs, comme j'ai dit, la Russie avait mis des grandes difficultés à l'importation des produits turcs sur le marché russe après le conflit géorgien, parce que la Turquie, en tant que membre de l'Alliance occidentale, avait pris part, bien sûr, du côté de la Géorgie dans ce conflit, et la Turquie et la Russie avaient payé cher à la Turquie en empêchant les produits industriels turcs de pénétrer le marché russe. Avec les derniers accords récemment, quand Poutine est venu en Turquie, ce problème aussi est résolu, et l'alternative de la Turquie par rapport à l'Union européenne est en fait, c'est d'avoir un traité de commerce libre avec la Russie. C'est sûr que ça va se répéter avec l'Irak. Avec l'Iran, ça va dépendre, bien sûr, de l'évolution du problème iranien. Ça, on verra dans l'avenir. Donc, en fait, une Turquie exclue va focaliser ses intérêts économiques et politiques plutôt qu'à l'ouest vers l'est, dans les Caucases, l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Les divergences entre la politique extérieure de l'Union européenne et la Turquie vont apparaître et vont présenter le risque de déboucher sur des relations conflictuelles. Les conflits potentiels, en fait, existent déjà. Vous les connaissez, l'Ukraine et la Géorgie, le Chypre, la prospection pétrolière dans la Méditerranée de l'Est, le problème égéen, l'Iran nucléaire. Je peux en citer d'autres, mais je crois que ça suffit. En plus, les différends à propos de ces conflits risquent de diviser l'Union européenne, c'est-à-dire une partie, en fait, des pays de l'Union européenne déjà appuie la Turquie dans son ouverture de politique extérieure vers la Russie, vers la Caucasie, vers le Moyen-Orient, alors que d'autres craignent, en fait, que la Turquie s'éloigne de l'Occident, etc. Bon, là aussi, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. La stabilité de la géographie de l'énergie est cruciale pour l'Union européenne, bien sûr, mais aussi pour la paix mondiale, c'est évident. Et la stabilité de cette géographie passe par la stabilité de la Turquie. La stabilité de la Turquie, en fait, dépend de sa prospérité économique et de l'approfondissement de son régime démocratique. Là aussi, je pose une question simple. À votre avis, quel est le meilleur moyen de garantir cette stabilité? Une Turquie membre de l'Union européenne ou une Turquie en dehors de l'Union européenne? Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je crois que j'ai fini à 30, 45 minutes.
Voilà. Voilà, on va attendre la... Voilà, ben donc vous allez pouvoir poser des questions. Est-ce que vous pouvez donc lever la main si... Oui, alors allez-y. Allez-y, oui, en haut à droite, là-bas.
Oui, bonjour monsieur. Est-ce que vous pensez, du fait de la place de la Turquie géographiquement et de son histoire, elle peut jouer un rôle dans la résolution du problème iranien? Et quel rôle elle peut jouer? Est-ce que c'est un atout pour son intégration en Europe, justement? Le rôle de stabilisation qu'elle peut apporter à cette région? Merci.
Vous me posez une question difficile parce que je ne suis pas, bien sûr, un expert des relations internationales. Je suis surtout un économiste. Mais cela n'empêche pas, bien sûr, ne m'empêche pas de suivre cette affaire très, très, très importante, très délicate. Je pense que oui. Parce que là, le grand enjeu, évidemment, c'est entre la Russie, la Chine d'un côté et l'Union européenne et les États-Unis de notre côté. Le problème fondamental est toujours l'accès aux ressources énergétiques. Vous savez que la Chine est en train de signer et d'exploiter des gisements. Il a obtenu des droits d'exploitation des gisements très importants de gaz naturel en Iran. La Chine va avoir de plus en plus besoin de gaz naturel et de pétrole. Poutine récemment a signé avec la Chine, la Russie a signé aussi des engagements d'exportation de gaz naturel, etc. Donc l'Iran est un exportateur potentiel très important. À cause de l'embargo occidental, évidemment, ne peut pas réaliser toute sa pleine production, son plein potentiel. Et donc, il y a une pression de l'Occident sur le problème nucléaire iranien, etc. Mais de notre côté, la Chine et la Russie ne vont jamais permettre qu'il y ait des sanctions, voire même une intervention militaire. Ils seront contre une intervention militaire en Iran. Mais ceci dit, comment la chose va se résoudre? La Turquie est contre, bien sûr, la nucléarisation iranienne, enfin, nucléarisation pas la nucléarisation pacifique, la production électrique nucléaire, mais contre la bombe, c'est évident. Mais en même temps, maintenant, la politique de la Turquie consiste de plus en plus à une dénucléarisation de toute la région, dans toute la région. Alors, ceci veut dire évidemment qu'il n'y a pas que l'Iran qu'on doit empêcher de posséder la bombe atomique, mais s'il y a dans la région d'autres puissances nucléaires aussi, il faut qu'il y ait un grand... C'est d'ailleurs la politique d'Obama maintenant. Est-ce que ce sera réalisé? C'est difficile. Mais en tout cas, il faut essayer de résoudre ce problème dans un cadre plus général. Est-ce que ça va réussir? Je ne sais pas. La Turquie a des bonnes relations avec l'Iran, donc peut jouer, en fait, peut transmettre les messages, comme l'Iran a confidence, les autorités gouvernementales iraniennes ont confidence à la parole du gouvernement turc. La Turquie peut transmettre d'une façon efficace le message de l'Occident à l'Iran, mais comme je vous dis, dans ce problème, il n'y a pas que l'Occident et sa pression sur l'Iran, mais il y a les positions de la Russie et de la Chine qui sont importantes.
Une question là-devant.
Merci. Bonsoir. Merci pour cet exposé. J'avais une question concernant donc l'adhésion. Si on vous suit dans ce scénario de l'adhésion, et je serai assez encline à le faire, est-ce que vous pouvez développer l'aspect critère de Copenhague, notamment, enfin, en particulier, l'état de droit et les respects des droits de l'homme et des minorités?
Oui, vous savez que d'abord, pour le principe de l'Union européenne, un pays ne peut entamer les négociations d'adhésion avec l'Union européenne qu'ici, il a suffisamment réalisé les critères que vous venez de noter, les critères de Copenhague, aussi bien économiques que politiques. Vous avez surtout parlé des critères politiques, bien sûr. Donc la Turquie déjà a été considérée par l'Union européenne qu'il avait suffisamment réalisé ces critères en 2004. Mais il y a évidemment un long chemin encore à faire entre aujourd'hui et l'adhésion. Et la Turquie, donc, doit continuer ses réformes démocratiques et surtout la constitution, une constitution démocratique. Et c'est le grand débat, le grand enjeu aujourd'hui en Turquie, le débat d'une constitution démocratique. Il y a eu, évidemment, il y a eu les fondations religieuses des minorités, la loi qui réglait qui surveillait ces fondations ont été changées. Là, il y a eu un pas très important, et d'ailleurs le dernier rapport de progrès qui vient d'être publié il y a quelques jours note ces progrès, etc. Mais il y a des choses à faire, et tant que la Turquie, bien sûr, ne va pas respecter pleinement les critères de Copenhague, il n'est pas question que la Turquie adhère à l'Union européenne, c'est évident.
S'il vous plaît, il y a une question un peu plus bas là, voilà.
Bonsoir. Vous avez parlé que la stabilité de la Turquie passe par l'approfondissement de son régime démocratique. Ce sera ma première question, et une deuxième question sur votre livre qui traite donc du capitalisme dans l'Empire ottoman, que je n'ai pas lu malheureusement. Pour l'approfondissement du régime démocratique en Turquie, il y a l'affaire des Kurdes, mais il y a aussi la reconnaissance du génocide arménien. Et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et pour la deuxième question sur votre livre, puisque vous parlez donc du capitalisme pendant l'Empire ottoman, est-ce que vous avez chiffré la propriété des Arméniens qui ont été confisqués, leurs maisons, leurs jardins, les fermes, etc.
Oui, bien sûr, je peux répondre à la question. La première d'abord... Il y a la question kurde, vous savez, c'est la question primordiale. La Turquie, aujourd'hui, mène un effort, le gouvernement mène un effort très important, ce qu'on appelle en Turquie l'ouverture kurde ou l'ouverture démographique, ça dépend des goûts, ça dépend des positions politiques, mais en tout cas, il faut absolument résoudre ce problème. Et si jamais ce problème est résolu, à mon avis... Il sera plus facile de résoudre aussi le problème chypriote. et le problème de la mer Égée, c'est-à-dire le conflit entre la Grèce et la Turquie. Je vous signale aussi le cas de la Grèce. La classe politique grecque est unanimement pour l'adhésion de la Turquie pour des raisons évidentes, parce qu'ils pensent qu'une Turquie membre de l'Union européenne va permettre de résoudre ces conflits d'une façon plus facile. Et question du génocide arménien. Bon, ce qui est important, évidemment, il y a eu une grande catastrophe, comme les Arméniens appellent d'ailleurs historiquement la grande catastrophe. Les événements de 1915, le mot génocide, c'est un mot juridique. Si vous faites une définition large, oui, effectivement, vous pouvez le considérer comme génocide. Si vous faites une définition plus restrictive, évidemment, ce n'est pas considérable comme génocide. Mais là, il faut pas se concentrer sur le jargon, sur le concept. Ce qui est important, c'est que il y avait un peuple arménien qui vivait en Anatolie, donc avant 1915. Les argumentations historiques, les conditions, etc. Je les passe. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, ce peuple n'est plus dans ces régions d'origine. Donc là, il y a eu effectivement une grande catastrophe, une tragédie humaine, une clarification ethnique, etc. Ceci, évidemment, était arrivé aussi dans les Balkans, etc., pour les Turcs. Mais là, je ne sais pas pour justifier, mais tout simplement pour dire que l'histoire est tragique. L'histoire de l'Empire ottoman est tragique. Il est encore très tragique pour le peuple arménien. Et donc, en fait, ce qu'il fallait en Turquie, qu'il y ait un débat, parce que jusqu'à... Il y a plusieurs années, il y a un tabou là-dessus. On ne discutait pas. Or, depuis quelques années, il y a une discussion ouverte, et même, je dirais, une discussion très ouverte en Turquie là-dessus. Et c'est très important. Alors, ce qu'on appelle, ce que le français aime appeler le travail de mémoire, effectivement, il faut qu'il y ait un débat historique. Et récemment, comme vous savez, il y a eu un protocole signé avec l'Arménie, entre le gouvernement turc et le gouvernement arménien. Et ce protocole, notamment, prévoit une commission d'historiens, à la fois arméniens, turcs, mais des historiens des pays tiers aussi, l'ouverture de toutes les archives, parce que les archives arméniennes aussi sont fermées, alors que les archives turques sont plus ouvertes, mais les archives de l'armée sont fermées, par exemple, mais les archives gouvernementales administratives sont ouvertes, etc. Bon, bref. Ceci, en fait, ce problème dans le processus d'adhésion doit être débattu d'une façon avec des documents, etc. Et finalement, vous savez, pour moi personnellement, si vous voulez mon avis, je considère ça comme une grande catastrophe, non seulement pour le peuple arménien, mais pour le peuple turc. Et là, j'entends votre deuxième question. Effectivement, il y a eu une grande perte à la fois de capital humain et de capital tout court, avec ce problème arménien. Donc la République a hérité en fait une Turquie, une Anatolie plus pauvre. Évidemment, ça ne faisait pas partie de ma thèse, parce que l'Empire ottoman face au capitalisme, c'était plutôt pour montrer que l'État bureaucratique avait empêché le développement du marché, l'économie de marché dans l'Empire ottoman et les droits de propriété, etc., etc. Mais là, vous avez raison, bien sûr. Avec le départ du peuple arménien et un grand nombre de morts, etc., il y a eu des problèmes de transfert de propriété, mais en fait, ça n'a servi à rien, parce que ce qui était important, c'était le capital humain qui pouvait, bien sûr, contribuer positivement à la croissance de la République turque. Donc voilà, si vous voulez, ma réponse à vos questions.
Question là, oui.
Oui, j'étais très intéressé par votre intervention. Je me demande cependant si vous n'avez pas présenté votre entrée dans l'Union européenne de façon un peu idéale. L'Europe, en passant de 6 à 27, est devenue une machine extrêmement lourde, qui a beaucoup de difficultés à avancer. Et on le voit actuellement avec les problèmes qu'on a avec la République tchèque, qu'on a eu avec la Pologne. Hein. Donc, je me demande si vous n'êtes pas un peu trop idéal dans votre présentation de l'Europe.
Oui, c'est vrai, 27, difficile à gouverner, mais le traité de Lisbonne va aider un peu, je ne dis pas beaucoup, mais va aider un peu à gouverner de façon un peu plus efficace. Le handicap, le problème irlandais vient d'être surmonté. Le problème tchèque, ou plutôt c'est pas un problème tchèque, mais c'est Václav Havel, le problème du président tchèque, va être surmonté aussi probablement. Mais ceci, c'est pas une réponse à votre question. Ma vraie réponse, c'est que c'est déjà à 27, et les pays balkaniques vont intégrer l'Union européenne parce que personnellement, je ne pense pas qu'il y aurait une adhésion précoce de la Turquie parce que ni la Turquie ni l'Union européenne ne sont prêtes à accepter la Turquie dans un proche avenir. Donc ça va prendre le temps. Et avant, il faut être réaliste, les pays balkaniques, les derniers pays balkaniques vont adhérer à l'Union européenne et ça va poser aussi des problèmes. Il y aura donc 6 de plus. 33, vous allez me dire, l'Europe est difficile à gouverner. Et à 34, c'est plus difficile ?
On va prendre encore deux questions. Allez-y, là, oui.
Oui, bonjour, monsieur. Je vais juste d'abord vous poser une toute petite question qui très brève. Pourquoi est-ce que pour vous, ce qui s'est passé en Arménie, vous l'appelez une grande catastrophe, est-ce que pour vous, c'est un génocide ? Vous me répondez par oui ou par non ? C'est tout ce que je vous demande.
T'as déjà répondu.
Je refuse de répondre à cette question.
Je ferai deux, trois remarques après, mais juste voudrais savoir.
Je lui ai répondu.
Pas votre intervention.
Si vous voulez que je répète, je vais le répéter. Si vous prenez au sens large la définition.
Au sens large, au sens restreint, c'est oui ou non. Est-ce que c'est un génocide?
Mais c'est non, si vous voulez, tellement.
Non, je vous pose la question. Là,
il me semble. Écoutez, monsieur, je crois que.
Je voudrais savoir l'avis de monsieur, qui est un intellectuel. Ça m'intéresse.
Il vient d'y répondre.
Est-ce que c'est un génocide ou non? Oui ou non?
Répondez. Écoutez, on n'est pas.
Non, monsieur!
Non, voilà. Merci, monsieur. C'est ce que je voulais entendre. Attendez. Alors là, je voudrais juste faire quelques remarques sur votre exposé. J'ai été choqué à plusieurs reprises, vous avez employé le mot « exclure ». Moi, j'ai fait des mathématiques. Quand on est exclu d'un ensemble, c'est qu'on en fait partie, on vous met dehors. Exclure, ça vient du latin, mettre dehors. Or, vous n'avez jamais été dans l'Union européenne. Donc, s'il vous plaît, n'employez pas ce mot d'exclusion.
Mais monsieur, permettez-moi de vous rappeler que la Turquie a signé un accord le 3 octobre 2005, est un pays qui est en train d'adhérer à une Union européenne.
Mais il n'y est pas, donc on ne peut pas l'exclure.
Donc, si vous voulez, l'exclusion, vous pouvez le considérer comme exclusion du processus de négociation, ça ne change
d'accord,
rien.
D'accord, l'art de jouer sur les mots, on est d'accord. Ensuite...
Bon, ça, écoutez, on va passer la...
Je vais juste poser ma question.
Ça y est,
laissez-moi parler.
Allez. Non, mais laissez... Mais monsieur,
juste une question. Dans le titre de votre intervention,
allez-y, s'il vous plaît.
À dos ou à tout. Vous nous avez présenté, je suis d'accord avec le monsieur.
S'il vous plaît.
Vous nous avez présenté que les notions d'atout. Alors, d'accord, pour vous, c'est un atout à 100%.
Non, je ne parle pas des atouts pour la Turquie. Bien sûr, il y a des atouts pour la Turquie.
J'aurais aimé entendre
mais
je
parle des
le côté
fardeau,
puisque vous avez... Bon, moi, je vous pose juste une question simple. Pourquoi, pensez-vous, vous, monsieur, pourquoi, quelle explication vous me donnez à cette difficulté qu'ont les Français à accepter l'idée de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne? Pourquoi, comme vous l'avez dit, sont-ils si différents que les autres pays européens qui, pour la plupart, veulent rentrer? Mais pourquoi les Français refusent le bonheur que vous leur proposez en faisant entrer la Turquie?
Vous me permettez de répondre, s'il vous plaît? Vous me permettez de répondre? D'abord, les Français ne sont pas tous contre. Les enquêtes montrent bien qu'il y a un Français sur trois pour l'adhésion. Les deux Français qui restent, en fait, il y en a la moitié, donc un tiers des Français, ils sont pas contre catégoriquement, mais ils pensent que la Turquie doit être un pays plus démocratique, plus évolué, plus prospère économiquement, de façon qu'il y ait moins de fardeau pour l'Union européenne, etc., etc. Donc là, les positions évoluent. D'ailleurs, il y a 10 ans, il n'y avait pas les mêmes pourcentages contre, il y avait beaucoup moins. Deuxième remarque. Troisième remarque, il y a un tiers des Français, on n'y peut rien, parce qu'ils sont contre pour des raisons culturelles. C'est jamais dit, mais en fait, ils sont contre parce que la Turquie est un pays musulman. Et ils pensent,
Ils pensent que l'Union européenne doit être un club chrétien. Et à propos du référendum, vous savez, il y a eu un grand débat en France à propos de ce problème, non pas à cause de la Turquie, mais pour des raisons fondamentales. Est-ce que l'Union européenne doit toujours être basée sur des principes laïcs, démocratiques, universels, ou la référence à la religion chrétienne? Et ça a été refusé par les Européennes. Et tant mieux. Vatican n'a pas pu imposer aux Européens que l'Europe devient un club chrétien. Et je trouve ça très bien.
Non, monsieur, merci. Il y a une dernière question en haut, s'il vous plaît. Vous avez eu la parole, donc voilà, allez-y.
Oui, merci. Je voulais d'abord dire mon admiration pour la clarté de l'exposé que vous avez fait et la leçon de rationalité humaine que vous nous avez donnée. Après plusieurs jours où on a beaucoup parlé de religion, aujourd'hui on a parlé beaucoup plus sur un ton de rationalité humaine. Je trouve que vous avez eu l'intelligence et l'audace d'introduire votre sujet en partant du point de vue des Français ou d'une certaine opinion publique française. Donc, en quelque sorte, j'ai deux questions ou deux ouvertures de questions. L'Europe, on est parti de l'Europe à Adenauer, De Gaulle à 2 ou à 6. On est maintenant à une Europe à 27. Elle est forcément différente de la première idée que les gens avaient il y a une génération passée. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous projeter sur ce que peut être une Europe élargie au niveau de la Turquie et d'autres? Et versant de la même question, qu'est-ce que vous pensez des notions d'union de la Méditerranée? Est-ce que ça a un sens? Ou est-ce que dans la géopolitique que vous nous avez décrite, ça n'a pas de sens?
Ça n'a aucun sens, l'union pour la Méditerranée. C'est pas une intégration économique et politique, pour le moment d'ailleurs. Et ça va rester là. C'est un cadre de coopération dans différents domaines entre l'Union européenne et les pays méditerranéens mais non membres. Et c'est très bien. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est jamais une alternative comme a voulu le présenter dans un premier temps une partie de la classe politique française comme une alternative à l'adhésion pour la Turquie. D'ailleurs, on n'en parle plus. Et l'Union pour la Méditerranée va rester en fait une Barcelone plus, c'est tout. Donc c'est pas une alternative. Quelle était l'autre question? Excusez-moi.
Quelle est la projection
sur une... Ah oui, d'accord. Écoutez, aujourd'hui, en fait, on a parlé de l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Les Turcs considèrent majoritairement que cette adhésion sera bénéfique. Très bien, moi aussi je suis d'accord avec cette approche. Mais nous ne sommes pas sûrs si dans 10 ans, 15 ans, est-ce que ce sera toujours bénéfique. J'ai pas parlé aujourd'hui parce que c'est pas mon sujet, les grandes difficultés qui existent dans le fonctionnement européen aujourd'hui. En fait, il y a 4 failles économiques qui existaient déjà, mais qui ont été approfondies par la crise économique, et ces failles risquent de provoquer des séismes très importants dans l'avenir dans l'Union européenne. Ces 4 failles sont la dette publique. Vous savez pour quelle raison? Il y a une asymétrie des dettes publiques dans l'Union européenne. Il y a des pays qui sont surendettés, comme la Grèce, la Belgique, l'Italie. Ils profitaient de leur adhésion dans la zone euro, c'est-à-dire ils pouvaient s'endetter à des prix, des taux d'intérêt très bas, profitant de la stabilité de la zone euro. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils sont obligés de payer des primes, des surprimes pour l'endetter, etc. Leur ratio d'endettement est déjà de l'ordre de 100%. Vous savez que le gouvernement belge, le premier ministre belge récemment a dit si l'État belge était une entreprise privée, depuis longtemps il avait faillite. Le gouvernement grec Karamanlis a été obligé de provoquer des élections anticipées. C'est à cause de ça. Et Karamanlis a dit, il faut serrer les ceintures, le parti est fini, il faut fermer maintenant la taverne. Yorgo, monsieur Papandreou n'était pas d'accord, il a dit aux Grecs, on peut continuer à faire le sirtaki. On verra bientôt s'ils vont pouvoir continuer à faire le sirtaki ou pas. Déjà, le gouvernement Papandreou commence à prendre des mesures de serrement de ceinture. La France, l'Espagne,
etc., commencent à s'endetter très rapidement, alors qu'il y a des pays qui sont très peu endettés, la Hollande, l'Allemagne, etc. Donc ce problème d'asymétrie d'endettement va poser des grands problèmes bientôt en Europe. Est-ce que le traité de stabilité, de croissance et de stabilité, ou les critères de Maastricht, c'est-à-dire les fondements de l'euro, doivent être poursuivis ou non? C'est un grand débat actuel que vous connaissez. C'est la première faille. La deuxième faille, c'est qu'il y a des asymétries, des déséquilibres de compétitivité de plus en plus prononcés dans l'économie européenne. Entre la France et l'Allemagne, par exemple. C'est un grand problème qui va poser bientôt. La France va développer, va demander plus de solidarité. Les Allemands vont probablement dire nein. Troisième faille. L'euro, surtout avec l'affaiblissement du dollar, donc avec l'appréciation de l'euro, les problèmes de compétitivité se posent de plus en plus d'une façon aiguë et risquent de provoquer des déséquilibres à l'intérieur de l'Union européenne, parce qu'un euro fort, ce n'est pas bénéfique pour tout le monde, c'est bénéfique pour certains, c'est au contraire un grand coup pour d'autres. Et le dollar risque de déprécier dans les années qui viennent. Quatrième faille, la crise a révélé qu'en fait, les pays de l'Est avaient adhéré prématurément. Maintenant, ils sont en train, dans certains, l'économie est en train de s'écouler. La Lettonie, la contraction est de 20%. Ils ont baissé, ils ont réduit les salaires des fonctionnaires de 40%. Vous imaginez, en France, on réduit, non pas de 40%, mais de 5% les salaires des fonctionnaires pour pouvoir équilibrer le budget, etc., pour réduire le déficit budgétaire. Ce sera la deuxième révolution française, c'est sûr. Donc, il y a des difficultés énormes qui attendent l'Europe. Et on ne sait pas si dans 10 ans, dans les années 2020, je pense que, d'une façon réaliste, probablement l'adhésion de la Turquie va être dans la période de 2021, c'est-à-dire la nouvelle période budgétaire. Vous savez, il y a 2014, l'échéance de 2014 maintenant. Ensuite, il y aura l'échéance de 2021. Très probablement, mais sinon la Turquie ne sera pas membre, c'est pas la fin du monde. Je dis, il y a des alternatives. La Turquie va essayer. C'est pas la meilleure alternative, mais on s'en sortira. Mais si l'Europe, en fait, a de plus en plus de difficultés, et le problème, surtout l'éclatement de l'euro, commence à se poser, etc., est-ce que vraiment il faut insister pour l'adhésion? J'en suis pas sûr. Le monde va évoluer très rapidement. Dans 15 ans, je ne sais pas où nous en serons, où en sera la Turquie, où en sera l'Europe. Mais pour le moment, il est bon pour les deux côtés que la perspective d'adhésion se poursuive, que les négociations se poursuivent, que la France ne bloque pas le processus de négociation. C'est très important. Et le blocage n'est pas seulement les 5 chapitres qu'on bloque. Bon, ça, on verra plus tard, dans 2-3 années. Mais ce qui est important, ce discours acharné contre l'adhésion de la Turquie. Et ça, c'est le seul pays dans l'Union européenne à avoir ce discours acharné contre l'adhésion de la Turquie. Vous avez parlé des 27 membres, il y en a 26 qui en parlent beaucoup moins, et certains sont carrément pour, bien sûr. L'Espagne, la Suède, la Grande-Bretagne, l'Italie, les pays de l'Est, tous les pays de l'Est sont pour l'adhésion de la Turquie.
On va faire passer le message. Non, nous allons nous arrêter là. Remercier beaucoup le professeur. Et voilà. Et nous retrouver plus tard.